Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! C'est à la fois une correction, une punition corporelle, mais aussi un outil d'éducation. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, la fessée de la violence éducative à l'interdiction.
Des tapes de ses fesses? Oh, j'en ai reçu.
Oui. Oui.
Non, mes parents n'étaient pas du genre à nous donner des fessées.
Oui, j'en ai reçu.
C'est arrivé une fois.
J'en ai reçu plusieurs. J'étais pas une enfant bâtie du tout.
Oui, j'en ai déjà eu.
De quoi?
Les tapes sur les fesses, sur la figure.
Sur les fesses, oui. Vous savez, papa, il était grand. S'il m'a donné une, je me souviens bien longtemps.
Des souvenirs de la fessée, un extrait de l'émission « Simplement la vie » à notre télé, 27 janvier 1996. Dans la Rome antique, le père avait droit de vie ou de mort sur ses enfants. Au Moyen Âge et à la Renaissance, le fouet était considéré comme salutaire. Il sera remplacé plus tard par le martinet, la strappe, comme on disait chez nous. Dans les couvents et les collèges, la fessée était largement répandue. On lui prêtait des vertus éducatives, médicales ou disciplinaires. Puisque, comme le dit le vieil adage, « qui aime bien, châtie bien ».
Si vous avez des enfants,
oui.
Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'un instituteur ou l'institutrice leur inflige des corrections corporelles, soit une tape, une volée, un coup de règle?
Bien, il me semble qu'il pourrait y avoir d'autres genres de corrections sans que ce soit...
Des corrections
corporelles.
Merci, madame. Dis donc, tu vas à l'école, toi?
Oui.
Quel âge as-tu?
13 ans.
Est-ce qu'il t'est déjà arrivé que le professeur lève la main sur toi?
Oui. Quelquefois, oui.
Qu'est-ce que t'en dis de ça?
Je ne m'a pas bien ça.
Trouves-tu qu'il y a raison de te punir de cette façon-là ou si t'aimerais mieux qu'il te donne une autre punition?
Ouais, une autre punition, oui.
Qu'est-ce que ça te porte à faire quand il lève la main sur toi? D'abord, qu'est-ce qu'il te fait? Est-ce qu'il te donne une tape dans le visage ou...
Ben non, pas exactement dans le visage. Et elle nous prend par les cheveux puis elle nous tire ou bien qu'elle donne une claque, je sais pas, moi, vous savez.
Est-ce que ça te fait quelque chose?
Ben, un peu, oui.
T'es-tu déjà révolté? As-tu déjà essayé?
Oui.
Qu'est-ce que t'as fait?
Je me suis enfui de l'école.
Penses-tu que si le professeur avait pris d'autres moyens pour te parler et t'amener, t'étais peut-être tannant ce jour-là? T'étais peut-être un peu dissipé, non?
Oui, j'étais peut-être tannant, mais elle aurait pu me donner une autre punition, m'envoyer sur le frais directeur ou bien. Je sais pas, moi.
Puis tu serais peut-être resté à l'école à ce moment-là? Tu te serais pas enfui?
Oui, j'aurais resté à l'école.
Témoignage recueilli par la journaliste Michèle Junot à notre radio, c'était le 21 février 1967. Alors pour nous parler de l'histoire de la fessée, mon invité, Geneviève Pronovo, enseignante en histoire au collège Jean de Brébeuf à Montréal. Bonjour, merci d'être là.
Bonjour.
On a entendu de tout, hein, la fessée, la claque, la volée, la mornifle, comme on dit au Québec, la strappe. C'est quoi la fessée?
Bien, la fessée, c'est des coups sur les fesses, avec ou sans instrument, en guise de châtiment. On l'appelle aussi le pampan cucu.
Ah oui.
Surtout en France, hein, quand on dit par exemple quelque chose de cucu la praline, ça veut dire quelque chose d'enfantin parce que cucu, c'est le postérieur des enfants. On l'appelle aussi la punition du jambon.
Oui. Ah oui, OK.
Elle est administrée par une autorité parentale, mais aussi scolaire, civique, religieuse à des enfants. C'est ce qui nous vient en premier en tête.
Oui.
Mais pendant longtemps, les adultes ont été fessés jusqu'au 18e siècle. C'est si un châtiment pour les adultes ou encore il est administré entre deux partenaires consentants dans l'intimité. Ça devient un objet d'étude en sciences humaines très intéressant au fil du temps. Elle est présente dans tous les continents, la fessée. Selon Isabelle Poutrin et Elisabeth Lucet, les autrices du dictionnaire du fouet et de la fessée, elle est étudiée autant en histoire de l'éducation, des religions, des objets, en sociologie de la famille, en sociologie de l'État. Elle a une présence culturelle assez importante en art. Max Ernst, un peintre surréaliste, va faire une toile célèbre, la Vierge corrigeant l'enfant Jésus.
Oui,
on la retrouve en littérature érotique. On pense tout de suite au Marquis de Sade ou à Jean-Jacques Rousseau et ses confessions. Mais aussi en littérature jeunesse, la comtesse de Ségur va souvent aborder la fessée, qui est la punition de l'enfance par excellence. Il faut dire que la fessée, là, c'est vraiment le symbole de domination. par excellence. Il y a même des historiens qui amènent que lors du couronnement d'un roi, on lui remet la couronne, l'orbé, qui est le symbole de la religion, mais aussi le sceptre, qui est finalement un bâton décoré. Et ça rappelle au sujet qu'ils peuvent être fessés n'importe quand par l'autorité. La crosse de l'évêque, la matraque du policier, bâton du maître, c'est un petit peu la même symbolique.
Oui, tout à fait. Mais ça remonte à quand? J'imagine, bon, c'est pas évident de mettre une date là-dessus, mais depuis quand on donne la fessée? Est-ce qu'on a une idée?
Selon les préhistoriens, là, entre autres la préhistorienne Marilyn Patou-Matisse, il n'y avait pas de fessée au paléolithique. Non. C'est arrivé au néolithique. Avec la sédentarisation, 10 000 ans avant Jésus-Christ, on adopte l'agriculture, l'élevage, ce qui fait que l'écart entre les grossesses va se rapetisser. Il va y avoir plus d'enfants par famille, fait que les tensions entre les parents et les enfants vont augmenter aussi. Mmh. Et donc, la fessée viendrait finalement calmer ces tensions-là. Il faut dire que les communautés étaient de plus en plus nombreuses aussi. Ça, sédentariser, ça veut dire plus de membres dans une communauté. Les premiers codes de loi vont être écrits pour être capable de vivre ensemble, de partager les ressources. Et qui dit code de loi dit contrevenant, dit amende, châtiment corporel. On va fesser les enfants pour qu'ils sachent devenir des adultes responsables. Et on fesse les adultes pour éviter qu'ils fassent planer un risque pour eux-mêmes, sur leur famille ou sur leur communauté. Alors, ça devient finalement un châtiment pour enfants et pour adultes.
Oui, un rappel à l'ordre. Même si dans l'Antiquité, hein, plus tard, chez les Grecs, on lui accorde une valeur éducative. Platon en parle dans ses écrits, il l'encourage même, la fessée. Hein?
Dans les lois de Platon, on dit que n'importe quel citoyen qui se promène dans la rue et qui voit un enfant contrevenant, il a le droit de le corriger sur place. Ça devient un outil pédagogique. Hein? On considère l'enfant à l'époque comme une petite bête sauvage, déraisonnable, qu'on doit dresser. Et la fessée, le châtiment corporel, devient outil pédagogique. C'est le pater familias, là, comme vous le disiez en introduction. Le père a droit de vie, de mort sur sa famille, ses enfants, sa femme, ses esclaves. Mm-hmm. Mais quand il devient père, il n'a pas seulement le droit de les corriger, il a le devoir de le faire.
Ah oui, c'est un père responsable.
Ouais.
Ouais, ouais. D'où ce... Je disais en introduction, ce vieil adage, hein, qui aime bien châtie bien. Ça vient d'où, ça, d'ailleurs?
Bien, au Moyen Âge, on vient appuyer cette relation amour-violence par ce fameux proverbe. Ça proviendrait de l'Ancien Testament, du livre de Salomon, qui dit « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme le père l'enfant qu'il chérit. » Et donc, tranquillement, la fessée, le châtiment corporel, devient preuve d'amour envers les enfants. Au 16e et au 18e siècle, là, entre les deux, le pater familias devient le droit de correction. On le met un peu de côté pour le transformer en droit de correction. Et c'est pas rare qu'il y ait des pères qui négligent de corriger leurs enfants et qui reçoivent des amendes en argent, des peines de prison. On s'en va prison parce qu'on
n'a pas corrigé son enfant.
Parce qu'on dit qu'on les a laissés malversés. Mmh. Et même, il y a des peines d'humiliation. On va attacher le père sur un âne, et en Italie et en France, et on le fait se déplacer dans les rues des villes, des villages, pour l'humilier.
Oui.
On dit que ne pas corriger son enfant, c'est symbole d'indifférence, de désintérêt pour lui. Même que les pères, la veille du mariage de leur fille, rencontraient leur gendre et lui montraient comment corriger sa future femme. Pour éviter, finalement, qu'elle malverse.
Oui, oui.
Même la noblesse, hein? La noblesse s'en tire pas, là. Louis XIII se faisait battre jusqu'à 8 ans. Louis XIV, il était super malade quand il était petit. Mais ça l'a pas empêché de recevoir des fessées. Il y a juste le fils du grand dauphin qui, lui, a des ménins à son service. Il y a 6 gentilhommes, puis c'est les gentilshommes qui se font fesser à
sa place.
Ah oui,
il envoie les autres se faire ça.
Puis lui, il doit quand même assister à la représentation pour en tirer les leçons, mais lui...
Oui,
il s'en sort.
On lui épargne le postérieur. Parce que, bon, il y a la fessée, on l'a dit au début, avec la main, mais il y a la fessée aussi avec l'objet. Et 16e, 18e, on va introduire comme ça des objets, dont le martinet, qui est un petit fouet. On peut le définir comme ça, peut-être.
Oui. Avant le martinet, il va y avoir la verge.
Oui.
On pense que la verge, c'est un morceau de bois, mais c'est une poignée de brindilles de bois avec lequel on frappe les enfants. Puis, il va y avoir le martinet. S'il y a des gens qui ont des origines françaises là, qui sont à l'écoute, ça va peut-être leur sonner des cloches.
Oui, plus répandu là-bas, hein, dans les familles. Là. Ouais.
En 1962, c'est quand même 200 000 familles qui possèdent un martinet.
200 000?
200 000 familles. dans les années 60, on en vend 12 000 par année. Là. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et on adopte le martinet sous le règne de Louis XIV. C'est un de ses lieutenants-colonels qui s'appelle Jean Martinet. C'est un homme intransigeant, un homme dur qui fait faire des exercices interminables à ses soldats. Puis à ce moment-là, les soldats dans l'armée, ils sont fouettés dans le dos, sur les fesses, par le fouet, et parfois, ils en meurent. Alors, Jean Martinet dit non, là, il faudrait peut-être remplacer ça par ce petit fouet de plusieurs lanières de cuir qui va faire aussi mal, mais qui va avoir moins d'impact sur les hommes. Et donc, comme c'est un homme intransigeant et dur, le fameux fouet va finir par porter son nom.
En tout cas, pour nous, au Québec, parce qu'on évoquait la France, le martinet, plus répandu là-bas, mais pour nous, au Québec, la fessée, c'est souvent la strap. Hein? C'est très associé, ça, aux institutions religieuses, ouais. Le pensionnat, le couvent, le collège. Pourquoi la punition est-elle omniprésente dans l'imaginaire de la religion chrétienne?
Bien, la pénitence est au cœur de la religion chrétienne. Les sœurs rebelles se font déjà fesser, flagellées en 508. Pour atteindre la perfection théologique, il faut avoir une douleur physique. Même les gens qui vont se faire canoniser, qui vont devenir des saints, s'ils n'ont pas eu une mortification corporelle, la canonisation va être exclue pour eux. Donc, la fessée, la flagellation, ça devient finalement une façon de se rapprocher de la perfection théologique. Puis on finit par l'ouvrir à monsieur et madame tout le monde. On va commencer à fesser, entre autres, les prostituées. On dit qu'il faut qu'elles payent la chair par la chair. Mm-hmm. Puis tranquillement, ça va faire partie de la pénitence après la confession. Le confesseur va donner comme pénitence la fessée qu'il va administrer lui-même à ses ouailles après la confession derrière l'autel. Puis, tranquillement, il y a des gens qui vont commencer à se dire « Ah, bien, peut-être qu'on pourrait soulager notre prochain de cette fameuse pénitence. » Et les moines capucins vont commencer à se promener un peu partout, de porte à porte, et vont dire aux pénitents « On peut se faire frapper à votre place, se faire fesser à votre place si vous nous donnez une compensation en argent. »
Ah oui.
Et donc, ça, c'est une tradition qui va faire le tour de l'Europe jusqu'au 19e siècle, mais qui naît en Espagne, ce qui va donner naissance à une expression « Yo soy el culo del fré », je suis le cul du moine, fatigué comme le cul du moine. Mais comment un cul de moine peut être fatigué? Ben c'est qu'il se fait frapper à la place des autres.
Ben oui, et donc, fait beaucoup, là.
Être sur le cul... L'expression, ça veut dire être surpris, mais ça veut aussi dire être fatigué, proviendrait de là.
Ah oui, à force de recevoir des goûts comme ça,
oui.
À la place des autres. Hein? Puis comme les religieux étaient responsables de l'éducation jadis, ben la fessée ou le châtiment corporel, ça devient là encore un outil pédagogique.
Oui.
Hein? C'est ça aussi, là.
Oui, ben c'est ça. Dans les pensionnats, ce sont les communautés religieuses qui s'occupent des étudiants. Et souvent, ils vont se faire fesser au réfectoire, après la journée, après le souper, devant tout le monde, avec l'obligation de dire merci après avoir reçu la fessée. Et ils se font souvent fesser par quelqu'un dont c'est l'emploi, dont c'est le métier.
De fesser.
Oui, les communautés religieuses avaient des pères portiers, des pères économes. Mm-hmm. Eh bien, il y avait le frère fesseur.
Le père fesseur,
qui était embauché pour ça. Mais il y avait quand même des communautés religieuses qui n'avaient pas de frère fesseur ou de père fesseur. Il demandait donc à un garçon des champs de donner la fessée à ses petits camarades en échange de la pension gratuite. La duchesse d'Orléans écrit dans une lettre en 1689 qu'il y a un écolier là, qui sait que la fessée s'en vient.
Oui.
Il va se peindre sur les fesses, sur une fesse, le visage de Saint Ignace de Loyola, puis sur l'autre fesse, Saint François-Xavier. Et quand le frère fesseur arrive pour le fesser, il le déculotte et il voit les deux seins sur les deux fesses et ça le fait reculer.
Comprends.
Et c'est comme ça, c'est cette histoire-là qui va inspirer la comtesse de Ségur dans Le bon petit diable. Charles va se coller sur les fesses deux figures de diable et puis il va faire reculer ainsi la fameuse marâtre, Madame MacMiche.
Surprise, c'est plus quoi faire. En tout cas, pour plusieurs ici, dans les années 60, ça rappelait justement les souvenirs du collège quand on parlait de la fessée comme ça. À ce sujet, on va écouter Henri Bergeron et Colette Develin à notre radio en 1967.
Henri, quand vous étiez un petit garçon, est-ce que vous étiez un élève indiscipliné?
À peu près, disons, j'étais à peu près de la moyenne.
Oui, si je vous demande ça, c'est parce que je voulais savoir si vous aviez déjà goûté du martinet.
Martinet, j'ai goûté, martini, oui.
Non, ce qu'on appelait communément la strap.
Ah oui, oui, oui. Ah, ben, oui, la bonne vieille courroie, là. Oui, du professeur.
Oui, oui. Oui.
Ça m'est arrivé, oui.
Parce que vous savez que la jurisprudence établit que les professeurs ont un droit de correction sur leurs élèves.
Ah oui, tiens. Et à ce sujet, Michel Junot a rencontré un juriste, maître Jacques Fortin, qui est professeur de droit pénal à la faculté de droit à l'Université de Montréal.
Maître Jacques Fortin, est-ce qu'un instituteur a le droit, selon la loi, d'infliger des corrections corporelles à l'un de ses élèves?
Oui, le code criminel prévoit ces circonstances de façon expresse à l'article 43. Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondée à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.
Oui, bon, on l'entend ici, encore faut-il employer la force raisonnable, et ça, ce sera au cœur de nombreux débats. On va y revenir un petit peu plus tard dans l'émission, mais parlons d'abord de la fessée en médecine. C'est quand même assez étonnant. Quelle vertu on lui attribue? C'est quoi la fessée médicale?
Bien, dès la Grèce antique, on dit qu'il faut frapper les maniaques. C'est l'appellation qu'on donnait à l'époque pour les gens qui souffrent de bipolarité. Mm-hmm. Sénèque, homme d'État, dit aussi que pour diminuer la fièvre, il faut fesser les gens. Ça fait circuler le sang plus vite, donc diminuer la température du corps. Le dictionnaire Larousse du 19e siècle dit que la fessée guérit l'incontinence, la frigidité, l'impuissance, la paraplégie, même la constipation, seulement si le fessé retient son souffle en même temps qu'il reçoit la fessée.
Oui, bon, voilà, des prescriptions très, très, très précises.
Ouais.
Bon, dans tout ça, c'est complètement farfelu, bien on l'entend aujourd'hui. Mais il y a des, tranquillement, des voix discordantes qui vont se faire entendre pour remettre en question la fessée. Pourquoi tout à coup, on commence à s'insurger contre cette pratique-là?
Bien, à la Renaissance, entre autres, on va perdre beaucoup de gens par la peste, les guerres et tout ça. Ce qui fait en sorte que la vie de l'enfant va commencer à être de plus en plus importante. Mais c'est au 19e siècle que ça se passe. Au début du 19e siècle, l'enfant, c'est encore considéré comme dangereuse. Mais à la fin, l'enfant est considéré comme quelqu'un qu'on doit protéger. Puis il y a des lois qui vont commencer à aller dans ce sens. Les journaux ne sont pas étrangers à cette prise de conscience parce que, entre autres, le Petit Journal va publier beaucoup d'histoires d'enfants martyrisés, d'enfants abusés. Mm-hmm. Entre la correction puis la maltraitance, hein, il n'y a qu'un pas.
Oui, tout à fait, oui.
Et donc, tranquillement, il va y avoir toutes sortes de conventions de l'enfant qui vont être signées au 20e siècle. C'est beaucoup le travail des psychologues et des psychiatres. On dit que frapper un enfant, c'est finalement lui dire que la violence est la meilleure façon d'obtenir gain de cause. Mm-hmm. Ce travail-là va amener certains psychiatres à faire certains liens. Entre autres, Samuel Lepastier qui dit que la fessée peut calmer une crise, mais elle peut aussi donner à l'enfant le goût des jeux sadomasochistes parce qu'il va faire un lien entre le plaisir sexuel et la punition corporelle. Les fesses étant près des autres érogène, puis la fessée est souvent donnée par une personne aimante. Donc, ça peut avoir une influence sur la vie sexuelle. Mm-hmm. La fessée érotique va être très, très populaire au 18e siècle. Les maisons closes vont vraiment en faire tout un service, autant pour les manants, les aristocrates, les ecclésiastiques. Mais l'âge d'or de la fessée, c'est vraiment en l'entre-deux-guerres, les années folles. La Première Guerre mondiale a été quelque chose de très, très difficile.
Oui.
Et donc, c'est comme si, dans les maisons closes, la fessée devient un exutoire. On la banalise, on banalise les coups comme si c'était un jeu un peu pour oublier. Il y a même des guides roses là, qui donnent des étoiles aux maisons closes les mieux outillées.
Ah oui, selon la qualité de la fessée.
Oui, ouais, c'est ça.
Mais là, bon, on est dans autre chose. On est dans la fessée peut-être plus consentante ou en tout cas qu'il y a d'autres vertus. Vous parlez des psychiatres et des psychologues qui, tranquillement, remettent la fessée en question.
Ouais.
C'est le cas chez nous dans les années 60-70. Un exemple ici, le psychologue Kurt Corbell à notre radio en avril 1970.
Par punition corporelle, c'est qu'un professeur qui est mécontent ou qui sont insultés par l'enfant, va se plaindre au principal et le principal a le droit légal d'administrer la courroie ou de châtiller, de punir corporellement ce qu'on appelle le strap, d'administrer le strap.
Alors, il y a toujours un peu de violence, dans le fond, quand vous parlez de punition corporelle.
Oui, il y a de la violence.
Il n'y a pas seulement de mettre un enfant debout dans un coin.
Non, il y a certainement, la punition corporelle, c'est la violence, c'est que la courroie est administrée sur la palme, 4 ou 5 fois, sur la main droite. L'enfant reçoit 5 ou 6 coups de la courroie.
Et vous diriez que dans 3 écoles sur 10, on administre encore de nos jours
oui,
la courroie aux enfants.
En cycle secondaire, oui, oui. Mm-hmm.
Situation donc au Québec dans les années, en avril 1970. Bon, si bien que tout ça, ça va mener à une remise en question généralisée, du moins dans les pays occidentaux, hein, non à la fessée, mais pour la remplacer par quoi? Parce qu'on en revient encore à la valeur éducative.
Mm-hmm. Bien, c'est surtout l'exclusion, la punition.
Oui.
Finalement, on dit aux enfants, vous allez ne pas avoir de dessert, ou vous allez être exclus. Et c'est plus comme ça qu'on veut orienter les comportements. Au Canada, selon l'article 43 du Code pénal, une autorité a le droit de frapper un enfant dans un but correctif, dans la mesure du raisonnable. En 2004, la Cour suprême va encadrer tout ça.
Il y a des restrictions. Hein, ouais.
Jamais en bas de 2 ans, jamais au-dessus de la ceinture, jamais avec un objet, jamais sur la tête. En fait, le Canada s'est engagé à plutôt sensibiliser la population au fait que c'est pas un moyen efficace de guider un comportement, mais il y a encore beaucoup de détracteurs.
Oui, tout à fait. En tout cas, la fessée demeure légale ici. Il y aura un vaste débat en France, hein, parce que la France l'a interdite récemment, en 2019. Mais il y a des différences culturelles. Un exemple ici, justement, la différence entre le Québec et la France. Ce reportage de l'émission Enjeu, mars 2003, à notre télé.
Je ne vais pas vous dire, je vous dis mon opinion.
Mais c'est quoi?
Une fessée de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal.
Oui, ça m'est arrivé de donner des fessées à mes enfants, absolument.
Des bonnes fessées? Ou...
Oui, même des bonnes, oui. Pour l'aîné, le garçon, là, qui était un petit peu, qui est insolide, je lui ai donné déjà des bonnes fessées.
Visiblement, ici, on peut taper son enfant sans remords.
Pour les punir, il faut leur donner la fessée.
Donc, vous avez...
Moi, j'ai juste une petite fille.
À quel âge?
Elle a 5 mois.
Donc, vous avez...
Non, je ne donne pas la fessée.
Mais vous allez la donner s'il le faut.
Si elle n'obéit pas, elle ne comprend pas, ça, je lui donnerai la fessée.
Comme méthode d'éducation ou parce que ce serait un geste d'exaspération?
Non, comme méthode d'éducation.
Et même la psychologue de l'école qui en rajoute.
Mais par contre, avec ma petite fille maintenant, qui a 30 mois, il y a des moments, alors que je suis la grand-mère, je suis obligée d'aller jusqu'à la fessée.
Donc la grand-maman,
oui.
Psychologue,
oui.
Dans un milieu d'éducation,
voilà.
À l'école,
oui.
Donne la fessée à sa petite fille.
Oui, mais
puis vous vous sentez...
très exceptionnel,
ouais.
Mais je lui en ai déjà donné.
Puis vous vous sentez pas coupable?
Non.
Voilà, la situation en France, reportage Enjeu, notre collègue Alain Gravel, c'était il y a 20 ans, donc en 2003. Donc c'est ça la différence, c'est qu'il y a des pays en Occident qui l'ont interdit, carrément, du moins sur papier, là, évidemment. Puis dans le cas du Canada, c'est encadré, c'est ce que dit le jugement de la Cour suprême.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Certains disent qu'en effet, la stigmatisation sur le corps, l'enfant s'en rappelle davantage, et que quand on est petit pour raisonner, cette méthode-là fonctionne bien. D'autres disent plutôt qu'avec l'enfant qui grandit, il va peut-être développer des troubles. Marie-Hélène Gagné, prof de psychologie à l'Université Laval, a fait des études et disait entre autres qu'on a plus de chances de développer de la dépression, de la dépendance, des troubles mentaux si on a été frappé plus jeune. C'est un débat qui revient constamment sur la table des médias.
Oui, tout à fait. En tout cas, aux origines, on voit que ça remonte très, très loin, hein, autant chez les enfants que chez les adultes. Mon invité, Geneviève Pronovost, enseignante en histoire au Collège Jean de Brébeuf à Montréal. Merci beaucoup.
Merci.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.